Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Bonjour à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Pour ceux qui ont déjà entendu les premiers épisodes, Crème de la Crème, c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes pour parler de leur réussite. Et cette réussite peut être dans des domaines vraiment très variés. Ça peut être l'entrepreneuriat, le blogging, le journalisme, la gastronomie, l'aéronautique, la finance. Parce que pour moi, l'objectif est de partager avec vous les clés de la réussite de mes invités, d'avoir des conseils vraiment concrets pour arriver à des principes réplicables que vous allez pouvoir appliquer à vos propres projets. Si le concept de crème de la crème vous plaît, j'en profite pour vous dire dans cette petite intro que faut pas hésiter à mettre une note sympa sur iTunes ou simplement à parler du podcast autour de vous. Ça m'aidera évidemment à continuer à vous trouver de nouveaux invités. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean de la Roche-Brochard, alias La Machine. Jean est partenaire dans le fonds d'investissement de Xavier Niel, Kima Ventures. Et Jean est vraiment un personnage atypique dans le monde de la tech en France. C'est pour ça que j'ai voulu l'inviter. À l'école, c'était un cancre. On peut même dire, et c'est lui qui le dit d'ailleurs, que c'était un loser. Il a passé son bac au rattrapage, il a raté ses études, et globalement, il dit lui-même qu'il ne va jamais au bout des choses. Maintenant, Jean, c'est vraiment une autre personne. La machine, comme j'en ai parlé. Il gère les 600 boîtes du portefeuille de Kima avec seulement 3 autres personnes, descend 400 mails par jour et trouve quand même le temps de donner des cours dans l'école de l'incubateur The Family qui s'appelle Lyon ou même de faire des podcasts avec moi par exemple. Donc, comme quoi, les études au fond, ça sert pas toujours et surtout qu'on peut avoir un déclic tardif. Je trouve que c'est un beau message d'espoir. On va parler avec Jean de son activité de VC. Je peux vous dire d'ailleurs que Jean n'a pas sa langue dans sa poche. Donc pour les personnes que ça intéresse et que ce métier intéresse, surtout écoutez l'épisode. On va aussi parler de comment il sélectionne les startups dans lesquelles il investit, de son organisation personnelle, comment faire pour gérer 600 boîtes et 400 mails par jour, de yoga, de vélo, de sa vision de l'école et des innombrables livres qu'il recommande à ses amis startupeurs. Honnêtement, c'est passionnant. Vous allez voir, Jean est un mec absolument génial. Il est drôle, il est humble, il est lucide. J'ai passé un super moment avec lui et je le remercie encore mille fois d'avoir pris ce temps. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse la place à ma conversation avec Jean de la Roche-Brochard. Salut Jean.
Salut.
Bienvenue dans Crème de la Crème. Jean, ça a été assez difficile pour moi de trouver une question par laquelle commencer. J'ai failli te parler de ta casquette très célèbre sur les réseaux sociaux, ouais. De plein de choses. Je vais commencer déjà par te remercier d'être là. Merci de m'accueillir.
Je suis hyper content.
Et de m'accueillir en plus à Station F. Donc c'est très cool. J'avais déjà interviewé Roxane ici. Donc je commence à bien connaître les lieux. Je suis assez contente. J'ai un peu cherché. J'ai un peu fait mon boulot quand même. Et je me suis dit qu'il y avait un truc qui m'interpellait. Dans ta vie, Jean. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux Jean. Il y a Jean d'avant, le Jean que tu décris d'ailleurs toi-même comme, je dirais pas un loser, mais quelqu'un qui n'était pas forcément. Non, mais moi je ne dirais rien. Mais quelqu'un qui n'allait pas au bout des choses, c'est ce que tu dis. Donc avant Kima, il y avait ce Jean-là qui est un peu entrepreneur, qui a créé plein de trucs.
Qui aurait voulu être entrepreneur, qui aurait voulu faire HEC, qui aurait voulu pouvoir dire à ses parents, regardez, j'ai eu une bonne note à l'école.
Voilà, quelqu'un qui n'avait, on va dire qu'il y avait un peu de circonvolution dans son parcours.
Oula, ça veut dire quoi ça?
Voilà, et ensuite il y a le Jean d'après, il y a un peu Robocop Jean, qu'on appelle dans le jargon la machine, et qui est une personne qui est hyper organisée, qui est presque, aujourd'hui j'ai envie de dire, pas un gourou de la productivité, mais sincèrement t'es un peu une référence, tu donnes des confs à ce sujet, etc. Enfin sincèrement c'est assez impressionnant. Et je me suis demandé comment t'es arrivé à ce moment-là. Enfin, est-ce qu'il y a eu un déclic? En fait, j'aimerais bien que ça m'arrive, si tu veux. Et je te demande un peu comment t'as fait. Et est-ce que ça a été conscient ou est-ce que c'est arrivé un peu comme ça d'un coup? Enfin, t'as eu un déclic ou ça a été une lente évolution?
Ça a été, je pense, inconscient. De manière, il y a beaucoup de choses inconscientes chez moi parce que je prévois rien à plus de 3 semaines ou 3 mois. Je me fais engueuler par mes proches quand on réserve des billets d'avion pour aller à des mariages et qu'en fait, je fais ça 15 jours avant, que ça nous coûte un bras. Et l'histoire, c'est que j'ai toujours été très optimiste, mais assez clairvoyant. Donc, j'ai pas eu peur de ce que l'avenir allait m'offrir et j'ai plutôt eu de la chance. Bon, la chance, après, il faut la provoquer. Je pense que j'ai assez travaillé aussi là-dessus. Mm-hmm. Et puis après, le travail vient pas sans talent et j'ai du bol parce que j'ai trouvé un métier dans lequel je m'épanouis et dans lequel je suis bon. J'ai été très timide pendant très longtemps, mais résultat, ça m'a permis de développer une empathie qui fait que je sens plutôt bien les gens. J'ai toujours eu un bon esprit de synthèse, probablement parce que j'étais très fainéant. Donc en fait, tu vois...
J'aime bien comment tu te dévalorises un peu en permanence.
Non, mais tu vois, quand tu fous rien pendant 25 ans, et puis finalement, tout ce que t'as pas fait, t'as aidé à développer des capacités que j'arrive à mettre à profit aujourd'hui. Mmh. Donc c'est cool.
Non, mais c'est top. Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que, enfin, moi, j'ai vécu des moments, tu vois, dans ma vie où j'ai pris une décision consciente de changer. Par exemple, quand je suis devenue entrepreneur, en fait, j'allais pas l'être à la base. Moi, j'étais censée être prof d'anglais, tu vois, donc rien à voir. Et en gros, j'ai foiré un concours et je me suis dit, OK, mais il faut que ma vie change. Il faut que je décide un peu ce que je veux faire de ma vie et que j'arrête de juste me faire porter. Et donc, j'ai vraiment pris une décision consciente. Et je savais pas si toi, c'était le cas ou finalement, ça a été une succession de plein de mini-décisions qui ont fait qu'un jour, t'es devenu VC, quoi.
Moi, c'était une succession de plein de petites décisions parce que, alors d'abord, toutes les décisions que j'ai prises ont été évidentes pour moi au moment où je les ai prises. Quand j'ai décidé... non, la première n'était pas tellement évidente, mais ça s'est soit fait par... Comment on dit ? C'est pas par accident, mais c'était la force des choses qui a fait que j'ai pris certains chemins, ou alors c'est apparu comme des évidences. Donc, par exemple, quand j'ai passé mon bac que j'ai eu à l'oral, je suis rentré à l'université. En fait, j'avais envoyé des candidatures dans aucune école. Donc le seul choix que j'avais, c'était celui qui était en face de moi, qui était de rentrer à l'université. C'était le seul endroit où je pouvais faire. Quand j'ai fini ma maîtrise, j'avais l'option de faire des masters, enfin de candidater à des masters. Je me suis fait recal de tous les masters. Donc le seul master que j'ai pu faire, celui dans lequel on m'a pris, qui était un master de management stratégique international, qui voulait pas dire grand chose, mais dans lequel j'avais 4 mois de cours et 6 mois de stage après. Et tant mieux pour moi parce que les cours, j'aimais pas trop ça. Après, j'ai envoyé mon CV dans 100 boîtes de corporate. J'ai eu 2 réponses. Une à la Société Générale, je me suis fait jeter par tous les HEC et qui postulaient derrière moi. Et une dans une petite boutique de corporate finance où, coup de bol, ils m'ont pris en stage, quoi.
D'accord.
Puis le stage transformé en job. Et puis Lehman Brothers est tombé. Et puis l'équipe s'est disloquée. Et puis j'étais tout seul. Et je me suis dit, ah, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, quitte à ce que ma carrière soit foutue, autant essayer de faire un truc moi-même. Donc j'ai lancé ma boîte de conseil. Et donc, et après la boîte de conseil, j'ai rencontré un mec par hasard qui s'appelait Pascal Mercier, en levée de fonds, avec qui j'ai eu un super fit. Il m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire. Et pendant notre café, en fait, je dis, bah, je veux que tu m'embauches. Donc, il m'a embauché.
Ce qui est quand même plutôt cool, déjà, d'assumer, tu vois, et d'oser dire ce genre de truc, quoi. Enfin,
Ouais. Mais j'ai pas d'ego mal placé, hein. J'ai beaucoup d'ego, mais pas mal placé.
Non, mais je vois ça, mais c'est top. Non, mais les gens osent pas, tu vois. J'ai l'impression que t'es quand même vraiment quelqu'un qui ose, et ça, c'est assez génial.
Non, non, c'est pas ça. Moi, j'ai toujours été très timide, toujours en retrait, le cancre derrière dans la classe, et qu'il fallait pas qu'il se fasse voir, parce que moi, je me faisais voir, et moi, je risquais de me faire taper dessus par les profs. Mm-hmm. Et donc, j'étais très discret, très en retrait, et ça faisait que j'observais beaucoup les gens, mais que j'étais peu dans l'action. Et donc, le peu de décisions concrètes que j'ai prises, par contre, ont été assez impactantes, quoi.
Je préférerais être comme toi, tu vois, et prendre peu de décisions, mais que ce soit des décisions impactantes, comme tu dis, et des bonnes décisions, visiblement, dans ton cas, que de prendre plein de décisions en permanence, comme les gens, tu sais, qui tous les matins se lèvent et en fait décident qu'ils vont changer de vie, qu'ils vont faire un régime, qu'ils vont je sais pas quoi.
On a tous voulu ça, on en rêve tous, le déclic, genre, ouais, je me lève ce matin et je vais devenir le maître du monde. Ah, si seulement, quoi.
On saura qu'en fait, malheureusement, ça n'existe pas et que la vie, c'est une lente évolution. Bah, en fait, alors, je t'avoue que quand j'ai préparé cette interview, je me suis dit que j'avais pas mal envie d'aborder le sujet de ton métier de VC qu'on connaît mal. Une des raisons pour lesquelles je voulais l'aborder, c'est que moi, j'ai fait une école de commerce. Et quand je suis sortie de mon école de commerce, en gros, il y avait 3 catégories de personnes. Il y avait les wannabe entrepreneurs, comme moi. Il y avait les...
Tu t'en es bien sortie, quand même.
Écoute, je te remercie. Ouais. Il y avait les financiers, justement. Mais en général, à ce moment-là, c'était après Lehman Brothers, justement, dont tu as parlé. Et du coup, tout ce qui était trading, grosse boîte et tout,
moins
ça marchait
cool.
Un peu moins. C'était un peu moins cool. Et donc, le VC, c'était quand même assez sexy. Et tu avais les 3e personnes, globalement, marketing, corporate, enfin des boîtes un peu plus générales. Et donc, ça m'intéresse qu'on parle un petit peu du métier de VC que les gens connaissent mal. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu peux brièvement me raconter un petit peu Kima et qu'est-ce que tu fais chez Kima? Quel est ton rôle exactement pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un fonds de VC?
Il y a un petit piège, que Kima n'est pas un vrai fonds de VC, mais Kima, en gros, je vais donner des chiffres, parce que les chiffres, ça impressionne toujours et tout, c'est vachement plus facile à pitcher, surtout chez Kima, où on ne cherche pas de la perf, on cherche plutôt à accompagner l'écosystème dans sa mutation actuelle. Nous, on voit passer entre 30 et 50 deals par jour dans le monde entier, tout secteur, toute taille de deal. Et on finance une boîte tous les 3 jours en moyenne grâce à l'argent de Xavier Niel uniquement et sur des tickets moyens de 150 000 euros. La particularité de Kima, c'est que on est 4 personnes pour faire ça, qu'on a 600 boîtes dans le portefeuille, que nos tickets sont ce qu'on appelle les tickets one-off. On réinvestit jamais parce qu'on peut pas se permettre de réinvestir de l'argent quand on a 600 boîtes dans le portefeuille. Et on est une espèce de carte joker dans la main des entrepreneurs. On est rapide, on est sympa. Enfin, sympa. Je pense qu'on est bienveillant. On est rapide, on est bienveillant. On n'est pas des chèvres non plus.
Vous êtes sympa, on peut le dire.
Ouais. Et on est un joker que les entrepreneurs, on l'espère, trouveront utile dans leur avancée, mais peut-être qu'on servira pas et on le sait pas avant. Et donc, on a développé quelques outils dans lesquels on est une knowledge base, on a des perks, nos boîtes peuvent se connecter entre elles, on a quelques experts. On n'est pas proactif, mais on est très réactif. Et l'objectif, c'est de s'assurer qu'on ait une bonne image malgré le fait qu'on ne peut pas être aux côtés des entrepreneurs au quotidien.
Et alors, justement, c'est hyper particulier, c'est clair. Là, le fait que ce soit un investisseur, Xavier Niel, en fait, qui finance, qui est, comme tu dis, un peu moins des besoins de performance, finalement, que dans d'autres boîtes de VC où, traditionnellement, quand même, c'est ce que les gens regardent. Du coup, en fait, ça fait que vous avez, j'imagine, des principes d'investissement qui sont assez différents des autres fonds de VC. Mmh. Tu peux m'en parler un petit peu?
Moi, je lui ai posé la question un jour à Xavier. Je suis venu le voir et je lui ai dit, bon, Kima, c'est cool, hein, on fait plein de deals. opérationnellement, c'est assez excitant. Mais c'est pas comme ça qu'on va faire le plus d'argent. Et il m'a dit, oui, Jean, mais moi, j'ai pas besoin de plus d'argent.
C'est donc, pas faux.
Donc, tu comprends que c'est pas l'objectif. Et donc, oui, j'ai compris que c'était pas l'objectif. Mmh. Et donc, de toute manière, les VC et les investisseurs en général, je pense qu'on a tous le même prisme. On rentre par le marché, par l'excitation, par l'envie que quelque chose nous procure, et on reste pour l'équipe.
D'accord. Donc, en fait, c'est quand même d'abord le marché et ensuite l'équipe.
Bah oui, parce
pour
que.
Toi.
Quelqu'un m'envoie un mail, je sais pas, cette personne est sympa, sympa et tout. Généralement, juste à la lecture du mail, tu dis, la touche est bonne. Mais tu rentres par l'opportunité et tu restes pour l'équipe. Et moi, je pense qu'on fonctionne tous de la même manière. Et surtout parce que les marchés, tu le vois dans ton métier, tu rentres avec un prisme sur un marché et la probabilité que tu changes de direction, de prise, de perspective, elle est hyper importante. Et donc, avant tout, tu mises sur des gens, quoi.
C'est clair. Et au niveau du marché, par exemple, tu peux m'en dire un peu plus. Vous avez des marottes, vous avez des trucs, parce que j'ai vu, sincèrement, 600 boîtes, c'est tellement large, en fait. J'imagine que vous êtes un peu sur tous les fronts.
Je peux dire toutes les conneries qu'on a faites, c'est investir dans le hardware consumer. Il suffit juste de voir Fitbit, qui est une des plus grosses boîtes de hardware consumer qui galère, et toutes celles qui ont échoué, comme Jobone, Pebble, etc. C'est l'enfer. On a voulu faire du gaming, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, le gaming, ça voulait dire créer un portfolio de boîtes de gaming, en sachant que 4 sur 5 allaient échouer, il fallait des connaissances, il fallait avoir du réseau, il faut connaître les gens, c'est pas bon. Après, tu peux faire de l'adtech, si t'es un margoulin qui a envie de faire de l'argent au milieu sur une marketplace très désorganisée comme l'adtech, dans des marchés hyper incertains, il suffit de voir Criteo, même si ça marche, tu vois, c'est chaud, enfin c'est difficile, faut se renouveler en permanence. Les médias, c'est hyper difficile.
Mais ça, c'est clair.
L'enfer. Et après...
Vous faites aussi du B2C un petit peu quand même.
Ouais, ça, on adore.
D'accord.
Et le e-commerce aussi, c'est hyper dur. Le e-commerce non verticalisé, c'est l'enfer, tu vois. Genre, métier de distributeur.
Il y a eu son âge d'or, mais c'est vrai que c'est plus trop à la mode aujourd'hui.
Tu prends
Sojins,
Menlook, etc. Les échecs, on les a vus, quoi. Donc nous, on aime beaucoup le SaaS, les marketplaces, mobile consumer, évidemment. Tu vois, Zenly, Askip, Travelbiz, Yellow, WeMoms, on en a fait pas mal. Vertical Commerce, on adore. La dernière boîte dont je suis tombé amoureux, c'est une boîte qui s'appelle Mina Storms, qui fait des sous-vêtements pour teenagers, pour adolescentes.
Ah, c'est cool, je connais pas.
Et c'est incroyable. Et tu vois, elle te raconte, elle dit, ouais, j'étais avec ma petite sœur, on se baladait pour acheter des sous-vêtements. Et puis, on avait soit la catégorie enfant, soit la catégorie princesse Tam Tam. Sauf que l'adolescente, elle débarque au cours de piscine et puis il faut qu'elle se déshabille, quoi, tu vois. Et devant ses copines. Et donc, et elles ont créé tout un univers et elles sont hyper fortes. Et ça, on adore.
Et est-ce que, justement, au niveau du marché, tu penses qu'en France, il y a des marchés qu'on peut peut-être un peu moins adresser qu'aux US parce que le marché français est quand même plus petit. Bon, j'imagine, on parle souvent du prochain Google français, machin, les médias arrêtent pas d'en parler, en train de dire il faut qu'on le fasse en France, etc. C'est vrai que c'est pas facile, vu la taille du marché. Mais est-ce que, justement, il y a des trucs que vous interdisez un petit peu de faire parce que vous sentez qu'en fait, juste la France, c'est pas le bon pays pour le faire ou pas forcément?
Non, ça interdit rien de faire. C'est juste qu'il y a des marchés qui sont très capital intensive et sur lesquels... la ressource est rare. Tu vois, donc, y a un fonds qui a vraiment et coronné sur le marché, c'est Daphne. Pour faire des boîtes comme Agricool ou comme Margot.
Ouais.
Tu vois, genre, je vais financer une boîte qui va juste totalement transformer la manière dont on fait pousser des fruits et des légumes proches des villes pour complètement transformer un marché, ou Jean-Daniel Guillaume qui dit, moi je fais pas une néobanque, je refais une banque.
Non, mais c'est hyper ambitieux, c'est plus qu'ambitieux. Ambitieux.
Et moi je trouve ça fantastique qu'on ait des fonds qui aient ce courage-là, et qui en plus ont les moyens de financer.
Ouais, de soutenir,
puis après il y a des fonds, tu regardes comme Commit Invest, qui ont tellement d'argent qu'en fait ils se permettent de prendre des paris que d'autres prendraient pas. Mais tu peux pas faire des plaies d'infrastructure, tu peux pas faire de la nanotechnologie, il y a plein de trucs que tu peux pas faire, que tu peux faire aux US. Et d'ailleurs, il y a énormément de boîtes qui ont levé des dizaines et des dizaines de millions de dollars aux US, qui sont mortes et dont on n'a jamais entendu parler.
Bien sûr.
En France, ça marche pas, ça. Hein.
Mais d'ailleurs, c'est ça qui est assez drôle, c'est que moi, je vois parfois des boîtes, je connais des personnes aux US qui lèvent 10 millions, mais pour eux, 10 millions, c'est du seed de base, enfin, c'est rien. Alors qu'en France, 10 millions, c'est quand même déjà assez solide comme validation. Il y a de quoi dépenser un petit peu. Et pour revenir encore un peu sur le métier de VC, du coup, en tant que personne qui voit quand même passer un certain nombre de startups devant toi tous les jours, j'imagine que maintenant tu commences à savoir aussi qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui ne fait pas donc un bon fondateur de boîte, puisqu'on a parlé du marché, maintenant tu me parles des fondateurs. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, en fait ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer quand vous voyez quelqu'un ?
Ouais, moi j'aime bien me faire accrocher par un mail de quelques lignes, où il y a une touche de singularité qui te marque et t'as envie de recevoir les gens juste suite à un email. C'est amusant parce que le VC, c'est l'une des rares classes d'actifs dans lesquelles t'investis dans quelque chose d'extrêmement incertain, de très jeune, de très risqué, où tu sais que les meilleurs choix sont contre-intuitifs, en dehors du consensus, indétectable démarrage, souvent le fruit de pivot, et dont c'est la somme de la résolution des problèmes qui va faire la réussite plus que les réussites elles-mêmes, quoi. Et ça, c'est incroyable. Et donc, je ne sais pas quel est, si on a un prisme... Enfin, on ne s'est jamais posé la question entre nous, avec Rose, Alexis et Léonore, sur quel est le type d'entrepreneur qu'on affectionnait particulièrement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on regarde la clarté de vision de ces entrepreneurs-là, la qualité d'apprentissage. Genre, vraiment, tu vois, tu cherches une courbe d'apprentissage suffisamment élevée pour te dire, cette personne-là, elle n'y connaît rien, c'est une rookie. Et peut-être que dans un an, deux ans, trois ans... sa capacité d'apprentissage va rendre cette personne exceptionnelle en tant que CEO de sa boîte. Et moi, je regarde des entrepreneurs comme Firmin Soketo chez Payfit. Aujourd'hui, ils doivent être 75 ou 80. Il a commencé il y a deux ans. Ils étaient... non, mai 2015. Mai 2016, non, trois ans. Bon. Je caricature un petit peu. Tu sais, nous, on est ici, hein, on booste un peu
vous
les
comptez,
trucs.
Vous
hein.
comptez pas vraiment,
ouais,
en fait.
C'est une année compte double. Et ce mec-là, il a une capacité d'apprentissage extraordinaire. Et ça le rend hyper fort. Et puis, donc, clarté de vision, capacité d'apprentissage et force d'exécution. Et quand tu alignes les trois, généralement, t'as
globalement,
un entrepreneur...
Globalement, tu te prends pas trop, quoi.
Ouais. Il y avait un tweet de Marc Andreessen un jour qui disait « quality end-to-end ». Et c'est vraiment ça. Tu vois, les entrepreneurs sur lesquels tu regardes tout ce qu'ils font de A à Z et t'es juste impressionné par leur capacité.
Mais ce que je trouve dingue, tu vois, c'est que vous avez... Il y a quand même des entrepreneurs qui sont tellement différents, même dans leur vision, dans leur leadership. Je vois quelqu'un comme, par exemple, Fred Mazzella, qui est finalement assez discret, ou tu parlais de Jean-Daniel, finalement relativement discret aussi chez Captain Train. Tu as au contraire des personnes comme Damien Morin chez Save, qui sont pas très discrets et qui sont hyper expansifs, hyper énergiques. C'est un peu, on va dire, l'image d'Épinal, tu vois, de l'entrepreneur. Et je me dis, ça doit être hyper dur, en fait, d'avoir cette empathie qui te permet de comprendre, de comprendre vraiment qui est la personne derrière et... comment en fait reconnaître, si tu veux, ses qualités comme vous le faites finalement hyper rapidement quand vous investissez.
Le job de l'investisseur, c'est de supprimer le bruit et d'extraire les talents. C'est de pas être sensible au signal, c'est de pas être sensible au et en fait de créer un environnement de discussion avec l'entrepreneur qui soit suffisamment authentique, honnête, direct pour éviter que des paramètres extérieurs ou que la peur de devoir pitcher ou juste tu vois l'appréhension d'être devant un investisseur s'exprime. Donc typiquement quand il y a la dernière fois que j'ai vu un pitch deck sur une table, quand un entrepreneur me pitch, je peux pas te dire c'était quand, ça finit. J'ai plus de pitch deck. Et pourtant, Dieu sait que j'ai pitché le pitch deck moi-même, tu vois. Mais c'est fini, ça. Et quand je reçois un entrepreneur, mon premier enjeu, c'est de lui dire, on va avoir peu de temps ensemble, on va avoir qu'une demi-heure. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Parce que moi aussi, je rentre chez moi le soir et je me lève le matin. Et tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi t'as monté ta boîte, avec qui tu l'as monté, pourquoi ces gens-là. Pourquoi ce sujet ? Raconte-moi un peu les faits difficiles, remarquables de ton histoire, où tu vas, comment ça se passe. Et je ne veux pas le piéger sur des chiffres ou des sujets techno, etc. D'abord, je veux le mettre à l'aise.
Il n'est pas en train d'entrer dans une école de commerce, quoi. Il est en train de parler vraiment de ce qu'il fait de sa vie, de qui il est.
Ouais,
quoi.
Tu ne veux pas piéger l'entrepreneur. Déjà, il galère tous les jours. C'est pour qu'un VC vienne le faire chier quand il vient pitcher. C'est horrible, quoi. Donc, nous, d'abord, on les met à l'aise. Une fois qu'on les a mis à l'aise, on regarde s'il y a un fit. Et s'il y a un fit, là, on commence à creuser.
D'accord.
Mais le but, c'est de garder... Si tu veux, le problème du VC, c'est que tu dis non dans 90% du temps.
Ouais.
Donc, il faut que tu laisses une bonne impression aux gens que tu vas voir, même si tu leur dis non. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas leur mettre une pression inutile en sachant que s'il n'y a pas de fit, tu ne vas pas creuser.
Bah, alors, j'anticipe un peu sur des questions que je vais te poser plus tard, mais tu me tends un peu une perche sur le dire non, parce que bah, moi, je suis quelqu'un qui a parfois du mal à dire non, et je pense qu'il y a plein de gens dans ce genre... Enfin, ce n'est pas si facile. Et surtout, comme tu le dis, dire non gentiment. En fait, souvent, en plus, je trouve que quand tu te dis « Ok, il faut que j'apprenne plus à dire non bah, », en fait, tu passes de l'autre côté de la barrière et tu dis non de façon un peu mécanique, ouais. Tu vois. Est-ce que tu as des trucs pour réussir à dire non, juste, je ne vais pas te demander quel est, si tu as un framework ou un truc.
Déjà, l'origine du non, il est issu juste de notre éducation. Pendant 15 ans, on nous a appris à l'école à ne pas dire non, parce que dire non, ça veut dire soit créer du conflit, ça veut dire créer du conflit. Le problème, c'est que tu ne peux pas créer du conflit dans une classe de 30 personnes avec un professeur, quoi, ça fout le bordel. Donc la prof te dit, merci d'aller chercher le consensus ou le compromis.
Ouais, c'est clair.
Ok, donc t'arrives en entreprise, ça fait 15 ans que t'as pas dit non, et puis tes parents, à chaque fois que tu leur dis non, ils t'en mettent une, donc en plus ça marche pas. Et t'es obligé de dire oui à tout le monde. Et un jour, et en fait, c'est ça qui est dingue, un jour tu prends conscience, tu dis non à quelqu'un, et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Genre, en fait, t'avais le choix. En fait, à tout moment dans ta vie, t'as le choix de dire oui ou de dire non. Ouais, tu te rends compte que non, c'est juste un choix comme un autre, quoi. Et c'est pas un problème. Et puis, donc, t'as des gens qui le prennent pas mal, t'as des gens qui le prennent mal, mais globalement, les gens, ils le prennent OK, tu vois.
Ouais,
ça.
Oui, c'est sûr.
Et nous, quand on répond à un entrepreneur, plus on lui répond vite, et plus la probabilité que la réponse soit merci de m'avoir répondu si vite est hyper élevée.
Ouais, c'est clair.
Le VC de base, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, au lieu de dire non, il laisse traîner.
Mmh. Alors, si ce qui est un peu la procrastination, de toute façon, c'est un peu le truc de base. Moi, je suis, en tant que je te dis, mauvaise personne qui sait mal dire non. Mmh. En général, j'attends 2 semaines et au bout d'un moment, je me dis bon, bah, va quand même falloir que je réponde. Et là, je trouve une excuse. Et en fait,
c'est la frustration qui casse les gens. C'est pas le fait que tu aies dit non, en fait. Et donc, moi, j'ai une phrase toute faite. Je commence mes phrases par malheureusement. Ça veut dire attention, mauvaise nouvelle. Assieds-toi, ça va bien se passer. Et je les termine par désolé. Ouais. Ça veut dire c'est pas personnel.
Un peu de compassion, quoi. Quand
ouais.
Même.
Et mais c'est sincère. Nous, notre métier, c'est de dire non et on dit non très très souvent. Le but, c'est juste de dire non rapidement, honnêtement et sans jugement de valeur, quoi. Et les gens, ils ont besoin de ça. C'est comme les réunions. Tu débarques en réunion, la réunion va durer 1 heure, elle va être interminable, les gens vont sortir leur ordinateur, ils vont bosser, ils vont faire autre chose, ils vont répondre à leur email. Si tu arrives en réunion et tu dis bonjour, la réunion aujourd'hui c'est 30 minutes, voilà les items, voilà comment ça va se passer, toi tu as 2 minutes de parole par sujet, et à la fin du rendez-vous, voilà les items que chacun va préparer, les gens sont contents, ils ont besoin de cette structuration.
Bien sûr.
Si les gens n'avaient pas besoin de structuration, ils seraient tous entrepreneurs. La réalité, c'est que les 3/4 des gens ne sont pas faits pour entrepreneurs. Ils sont faits pour être opérateurs, ils ont besoin d'un cadre. Et plus le cadre est clair et authentique, transparent, radicalement transparent et vrai, putain, mais il n'y a rien de mieux.
De toute façon, il y a un temps. Là, tu vois, par exemple, ce matin, j'avais un rendez-vous avec un jeune homme d'ailleurs que j'ai rencontré à la station F qui me demandait des conseils sur sa boîte parce qu'il fait du B2C. Et j'ai commencé la réunion en lui disant, écoute, je suis désolé, mais j'ai que 30 minutes. Et en fait, ce qui est génial, si tu veux, c'est que du coup, en 30 minutes, mais il va te sortir un nombre de questions incroyables et tu sors une productivité, mais qui n'a rien à voir. Alors que si j'avais rien dit, qu'on avait pris un café un peu, qu'on avait 30, au bout d'une heure, j'aurais dit, bon, bah, je suis désolé. Et en fait, il serait même pas arrivé, tu vois, au fond du sujet, quoi. Donc, je suis complètement partisane de ce que tu écris. Si on revient un peu sur le monde du VC, du coup, j'imagine qu'en plus de côté des entrepreneurs, tu côtoies aussi beaucoup d'autres VC et que même si Kima, c'est un peu particulier, enfin, tu as dû voir quand même, ou en fait, tu dois te demander ou savoir qu'est-ce qui fait la qualité fondamentale d'un VC. Je te demande ça parce que c'est pas facile, mais je te dis, moi, j'avais tous mes petits copains quand j'étais en école de commerce qui me disaient ah, je vais être VC, je vais être VC. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de ça, qui savent pas vraiment ce que ça signifie et qu'est-ce qu'il faut vraiment, en fait, comme qualité ou qu'est-ce qu'il faut bosser, tu vois, pour vraiment être VC, sachant que c'est pas la même chose que d'être trader, que d'être un financier, je sais pas, de private equity ou ce genre de truc. Est-ce que tu as une réponse à cette question?
Oui, j'ai une réponse. Mais tu sais que ce qui est injuste, c'est que déjà plus de la moitié des VC le sont devenus par accident et probablement valent pas mieux que quelqu'un d'autre. Moi, pourquoi je suis devenu VC? Donc, je suis devenu VC parce qu'un jour, en 2011, j'ai rencontré un entrepreneur qui s'appelle Jean-Daniel Guillot avec ses 2 cofondateurs qui étaient Martin Wotenwelter et Valentin Surel et qui m'ont raconté l'histoire de Capitaine Train. Ce jour-là, j'ai pas seulement rencontré des entrepreneurs singuliers, j'ai aussi rencontré des entrepreneurs courageux. Et courageux dont les faits remarquables de leur histoire me faisaient dire que il fallait leur donner une chance d'exprimer leur potentiel. Je les ai accompagnés dans leur levée de fonds.
Oui, alors qu'en plus, je crois que la légende dit qu'ils galéraient pas mal quand même à l'époque pour lever des fonds, ce qui paraît invraisemblable maintenant quand on y pense.
Non, mais j'ai galéré pour le seed, j'ai galéré pour le série A, Et j'ai même galéré pour le Series B avec
Pourquoi pour toi, justement, il galérait? C'est parce que le marché était presque trop gros. Enfin, ça faisait peur de se confronter à la SNCF. Enfin, qu'est-ce qui, pour toi, explique cette difficulté? Parce que quand on voit
parce
le succès...
Parce que tu as des gens ordinaires qui jugent des gens extraordinaires. Mmh. Et donc, suite à ça, moi, j'ai fait beaucoup de levées de fonds. Et à chaque fois que je voyais les investisseurs, je suis désolé, y a un côté revanchard là-dedans. Mais je me suis dit, un jour, je serai investisseur et je te montrerai ce que c'est. Et ça m'a énervé. Et j'ai des noms, hein, je ne vais pas les citer, parce que je suis sûr qu'ils ont des services juridiques qui sont quand même bien équipés.
Ça restera notre petit secret.
Ouais. Quand j'ai vu ça, j'étais surpris du fait que les gens se aillent pas au-delà de ce qu'il y avait. Aillent pas au-delà, quoi. Mm. Et l'autre truc que j'ai remarqué, c'est que les investisseurs manquaient de deux choses. Et tu as de la chance avec Alven, parce que ça fait partie des rares investisseurs de la place qui ont ces deux qualités, c'est la discipline et la consistance. Mm. Tu peux pas être investisseur dans un marché dans lequel il y a autant d'entrepreneurs, autant d'incertitudes, c'est assez intense. Tu peux pas être bordélique dans un marché aussi intense.
Attends, quand tu reçois, comme tu dis, je sais pas combien de deals, enfin de decks par jour ou par semaine, c'est impossible, effectivement.
Mmh. Déjà, et même chez Alven, tu vois, ils en reçoivent énormément, ils reçoivent beaucoup d'entrepreneurs, et Alven, ils ont, un des rares frameworks de décision dans le VC en France, qui a fait ses preuves, ils te rencontrent une première fois, ensuite t'as le partners meeting et tu vois tous les autres partners, ils en discutent pour savoir s'ils veulent avancer et ils avancent ou pas. Mais les trois quarts des VC en France, mais même en Europe, hein, ils vont te voir cinq fois et la sixième fois, ils vont te dire non. Le mec, il fallait me dire non la deuxième fois. Pourquoi
c'est vrai que ça allait assez vite pour nous avec Alven et je dois dire que c'était un vrai plaisir parce qu'en fait, ils ont compris aussi que le rôle de l'entrepreneur, c'est de bosser sur sa boîte et c'est pas non plus de passer sa vie à essayer de lever des fonds, quoi. Et ça, c'était, je trouve, hyper smart de leur part, en fait, d'accepter ça et de jouer le jeu, quoi.
Et le job d'investisseur, c'est de comprendre que sa place dans l'écosystème, c'est une place confortable et que le confort, ça existe de prendre la responsabilité de faire le job correctement. Mmh. Parce qu'en face de toi, quand tu finances un entrepreneur, tu sais que si Louis il échoue, c'est pas grave. Ta perte, c'est une fois. Hein. Mais quand les autres réussissent, c'est plusieurs fois.
Ouais, c'est sûr.
Donc, et ça, on l'oublie, quoi. Mais mon modèle chez Kima, c'est de financer 100 boîtes en sachant que la moitié va aller au tapis. Mmh. Et la moindre des choses, c'est de respecter l'entrepreneur pour l'effort qu'il fait.
Oui, qui prend un vrai gros risque pour le coup sur sa vie, sur son temps, sur son argent aussi en général, parce qu'il a investi pas mal de ses sous dans sa boîte.
Et le plus difficile, c'est quand t'as un entrepreneur, c'est pas quand il échoue, c'est quand tu te rends compte qu'il a pas appris.
Mmh. Ça t'est arrivé, enfin, sans citer de nom, tu le sens quand même de temps en temps, parce que j'ai quand même la sensation que quand t'échoues, c'est tellement dur, t'en tires quand même des enseignements, ou tu penses que c'est pas toujours le cas?
Non, c'est pas toujours le cas, parce que contrairement à un deuil, l'échec d'entrepreneurial, c'est quelque chose dont que tu peux... Que
ouais, tu trouves des excuses.
Tu peux faire abstraction. Ça. Tu peux quand même te lancer dans un nouveau projet, dire que c'est la faute de je sais pas quoi... Il y a toujours un moyen de se mentir à soi-même.
Et ça, c'est le rôle du VC, justement, un peu d'aiguiller. Enfin, après, j'imagine que c'est difficile. Vous êtes pas psy. Vous êtes pas psy non plus, donc...
Faire ça avant l'échec. Mm. Si on peut. Mais en fait, la difficulté du VC, c'est que... On cherche à financer des entrepreneurs exceptionnels qui vont bâtir des histoires exceptionnelles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, t'as des choix discrétionnaires. T'as 10 entrepreneurs devant toi et tu vas choisir de backer et de passer du temps avec ceux qui réussissent. Et dans toutes les belles boîtes, d'ailleurs, si tu regardes un livre que j'adore qui s'appelle First Break All the Rules, l'une des grosses leçons de ce bouquin, c'est qu'un bon manager doit passer du temps avec les gens talentueux.
Ouais.
Parce que c'est ceux-là qui transforment l'entreprise et pas passer du temps avec les gens qui sont pas bons.
Oui, bien sûr.
Et ben, en tant que VC, c'est exactement la même chose. Malheureusement, tu passes du temps avec des entrepreneurs qui réussissent.
C'est clair que c'est assez méritocratique comme système. Et un peu comme tu parlais de l'école, c'est un peu l'inverse de l'école aujourd'hui où justement, on passe finalement beaucoup de temps en fait avec tout le monde, quoi. On fait pas trop de distinction entre les meilleurs et les moins bons, malheureusement. Alors en plus, les moins bons auraient besoin et les meilleurs aussi pour qu'on les tire encore plus vers le haut. Et c'est vrai qu'en général, on nivelle un petit peu, mais ça. On en parlera un petit peu plus tard parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur et moi aussi, donc ça tombe bien. Pour parler encore un tout petit peu de tout ce qui est VC et investissement, est-ce qu'il y a des deals que tu as regrettés? Et quand je dis regretter, c'est autant au sens de tu n'as pas investi dedans que tu as investi dedans. Bon, j'imagine que c'est plus difficile de dire que tu as regretté un deal dans lequel tu as investi, mais peut-être à la rigueur plus des deals dans lesquels tu n'as pas investi.
Je peux te dire qu'il y a des deals dans lesquels j'ai investi, dans lesquels je regrette d'avoir investi et pour lesquels on ne me reprendra jamais deux fois. Mm. Ça, c'est très important. Il faut un peu faire de post-mortem sur ces erreurs. Et après, les deals que je n'ai pas fait ou pas fait au bon moment et que je regrette, il y en a un en particulier, c'est Alan.
Ouais.
Donc, on a réussi à investir l'assurance mutuelle. On a réussi à investir au dernier tour un tout petit ticket. Mm-hmm. On avait l'opportunité de backer Jean-Charles et son équipe l'année dernière. Et sur l'histoire d'Alan, c'est que l'année dernière, on avait l'opportunité de faire le deal avec Xavier et on l'a pas fait. Je peux pas, pour de mauvaises raisons, parce qu'en fait, ils levaient de l'argent pour, en contrepartie, pour récupérer leur agrément d'assureur. Donc, c'était pas l'argent destiné à être mis au travail. Et donc, on a un peu bugué là-dessus. En fait, on n'aurait pas dû, quand un entrepreneur exceptionnel, avec une équipe exceptionnelle, qui fait quelque chose d'exceptionnel sur un marché sur lequel, qui est prêt à être disrupté, tu te poses pas la question, ouais, t'y vas, bien. Quoi. Donc, ça, c'est une leçon que j'ai prise et que, j'espère qu'on ne la reprendra pas. Ouais.
Et alors dans des leçons aussi que tu as appris de soit de deal pour le coup que tu as fait ou enfin sans rentrer dans le détail des personnes tu vois et des boîtes mais est-ce qu'il y a des leçons tu vois tu me disais il y a des trucs auxquels on me reprendra pas je leur ferai pas une deuxième fois qu'est-ce qu'il y a eu comme erreur tu vois où tu as tiré des enseignements quels ont été un peu les grandes erreurs que tu as pu faire où tu t'es dit waouh là ce truc là en fait il faut que je fasse gaffe on m'y reprendra pas.
Des boîtes dans lesquelles je me dis « Ah, le mec n'est pas incroyable, mais le marché est tellement évident, tellement facile, c'est impossible de se planter. » En fait, le mec se plante.
D'accord.
Et ça arrive parfois. Ou des deals sur lesquels tu doutes et par peur de le manquer ou pour des raisons de signaux de marché, tu décides quand même d'y aller.
Mm-hmm.
Voilà, ça arrive. Tu sais, on est faible, hein, on va passer beaucoup de deals et de temps en temps, on craque.
Bien sûr, c'est sûr. Et à contrario, si on parle un peu des entrepreneurs, parce que du coup, t'en vois énormément, tu vois passer aussi beaucoup de mails, comme j'ai pu comprendre. Qu'est-ce que tu vois comme... Alors, on va pas forcément parler des pitchs, parce que c'est intéressant, mais plus dans les deuxièmes phases, quand les personnes sont en train de se lancer, peut-être qu'ils ont déjà commencé à lever des fonds. Du coup, parce que vous les accompagnez, il y a un vrai accompagnement d'ailleurs chez Kima, qui est quand même assez important pour un fonds. Qu'est-ce que tu constates comme des erreurs un peu récurrentes chez des entrepreneurs où tu as envie de leur dire « Non mais les mecs, arrêtez-vous tout de suite, ça c'est dans 80% des cas, vous êtes à l'échec, donc maintenant, stop quoi. »
L'erreur de base de tous les entrepreneurs, c'est de ne pas comprendre que les deux choses essentielles de toutes les boîtes, c'est les people et les data. Il n'y a que ça qui compte. Les people, parce que c'est invariable et complexe. Et tu ne peux pas te permettre de faire grossir une boîte et d'embaucher des gens sans comprendre l'importance de ça. Et donc, le premier réflexe qu'on essaie de leur donner, c'est qu'ils apprennent à recruter, qu'ils apprennent à manager, qu'ils apprennent à devenir de bons leaders, parce que le coût de faire des erreurs dans les gens est
monstrueux.
Tu vois, il est monstrueux.
Ouais, je sais.
Première chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau de la data. La data, pour le coup, elle est très variable, mais pour le coup, elle est très simple. Mais la data, c'est un peu comme le droit, c'est une mécanique de l'esprit, tu vois. Donc il faut que tu sois mise dedans et il faut que ça rentre. Donc ça met un peu de temps. Et souvent, les entrepreneurs, en fait, ils regardent leur data trop tard parce que au début, ils se sont dit « Ah, j'en ai pas besoin, je suis tout petit, je fais quelques ventes, etc. » Mais en réalité, il faut s'y mettre très tôt parce que ça devient une gymnastique de l'esprit qui fait qu'on devient incollable sur les mécaniques de son business.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, c'est un peu comme le gaming. Moi, j'aime bien ce parallèle-là. Dans le gaming, pour réussir, il faut du talent et de la mécanique. Et bah, le talent et la mécanique d'une boîte, c'est les gens et les data. Et la maîtrise de ces deux choses-là, qui est pourtant pas très compliquée, tu vois, il y a le bouquin qui s'appelle « Who is the method for hiring ?» Je pense que tous les bons VC le conseillent à leurs entrepreneurs. Ouais, et il y a deux types d'entrepreneurs. Les entrepreneurs qui le lisent de manière consciente, appliquée, qui le comprennent et qui font des merveilles après. Et puis il y a ceux qui ne le lisent pas ou qui le lisent mal. Moi, quand je donne ce bouquin à un entrepreneur et qu'au bout de deux semaines, je sais qu'il est encore sur sa table de nuit et qu'il ne l'a pas lu, je suis très inquiet. Hein.
Non, mais clairement, en plus, souvent les entrepreneurs au début, ils aiment construire, ils aiment produire, ils aiment la création, ils ont une vision, ils n'aiment pas forcément le management, ils n'aiment pas forcément, tu vois, embaucher, ils ne savent pas comment faire, enfin pas tous, en tout cas moi, tu vois, quand j'ai démarré, je sortais d'école, je ne savais pas faire. Et c'est vrai que c'est difficile de passer, je trouve, de cette étape de vraiment entrepreneur à développeur de sa boîte. Tu restes un entrepreneur, mais tu apprends une nouvelle phase. Et du coup, je trouve ça assez clé, tu vois, que tu donnes des conseils comme ça, parce que c'est complètement vrai.
Est-ce que tu ne trouves pas que la maîtrise est rassurante ?
Bien sûr.
Tu vois, mais tu vois, les entrepreneurs, quand ils commencent avec énormément d'incertitudes et très peu de maîtrise. Et ils se rendent compte que très tard, en fait, à quel point la maîtrise aurait pu les aider à garder cette clarté de vision et d'apprentissage qui permet de bien exécuter une boîte, quoi.
Ouais, bien sûr. Mais il y a aussi, je trouve, un truc, un trait commun que moi, je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, et honnêtement, je l'ai eu aussi, qui est que souvent, quand entrepreneur, comme t'aimes bien faire, t'aimes pas tellement déléguer. Donc aussi, il y a toujours un peu une peur du recrutement, du mec, il va me piquer ma place. Il va être meilleur que moi, alors qu'en fait, j'espère bien qu'il va être meilleur que moi, parce que franchement, j'ai besoin d'avoir des personnes sur qui je vais pouvoir non seulement compter, mais qui vont développer ma boîte. Donc ça, c'est un message...
Règle de base des entrepreneurs, en s'entourer de gens plus intelligents que toi.
Dans la vie, de façon générale.
Dans la vie, de façon générale, ouais.
C'est clair. On dit, il y a un truc, c'est aux États-Unis qui est assez connu, c'est tu es la somme des 5 personnes avec lesquelles tu traînes le plus. Bon, en gros, il vaut mieux du coup s'entourer avec des personnes plutôt smart que des personnes que tu n'estimes pas.
Exactement, exactement.
Et alors, tu m'as parlé un petit peu de Pascal Mercier très rapidement, en disant donc bah, c'est un peu lui qui t'avait mis le pied à l'étrier à la base, en tout cas dans le monde de la finance. Est-ce que du coup, tu le considères un peu comme un mentor ou est-ce que tu as eu des mentors ?
Bah, Pascal, c'est le premier mec qui m'a mis une claque dans mon boulot. Donc, moi, je faisais levée de fonds. Donc, quand je faisais de l'IPO sur Alternex en 2008-2009 chez Avenir Finance, il fallait juste que je produise du papier, que je fasse des Excel. J'apprenais, mais j'avais pas de modèle. Après, j'ai fait la levée de fonds par moi-même, donc j'avais pas de modèle non plus. Et quand je suis arrivé chez Global Equities et que j'ai bossé avec Pascal Mercier, c'est la première fois que je me suis pris des remarques qui étaient dures à absorber. Et moi, j'ai un vrai problème avec l'autorité. Donc là, fallait non seulement faire face à l'autorité, l'accepter et grandir. Et c'est la première personne qui m'a permis de faire ça. C'était mon premier mentor.
Et tu continues, j'imagine, à... Enfin, alors maintenant, tu as peut-être un peu moins besoin de conseils, mais tu conseillerais à des entrepreneurs, justement, d'essayer de... Ou même n'importe qui, en fait, dans sa vie professionnelle, d'essayer d'avoir des vrais mentors qui vont les guider, qui vont leur donner des best practices, qui vont leur dire « Non, mais attends, là, tu te secoues, t'arrêtes de faire ça, tu vois, tu te bouges. » Ou est-ce qu'en fait, tu penses que finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et qu'il vaut mieux essayer de se débrouiller ?
Non, mais l'erreur qu'on a en France, c'est l'erreur de notre arrogance, je pense. C'est un truc dans notre ADN, je sais pas. C'est qu'on n'ose pas demander. Donc, j'ai pas l'impression que c'est une question de mentorship ou de pas mentorship. C'est quand t'as un problème, tu vas chercher la meilleure personne possible pour t'aider sur ce problème-là. Et apprendre à demander, c'est quelque chose qui est pas facile, mais c'est quand on demande qu'on commence à écouter, quand on commence à écouter, qu'on commence à comprendre et c'est comme ça qu'on grandit, quoi. Donc, juste aux États-Unis, quand les mecs ils ont besoin, ils ne demandent pas la permission, quoi. Ils t'appellent et puis ils te demandent. Et d'ailleurs, si tu regardes les boîtes françaises versus les boîtes américaines elles vendent d'abord et elles font le produit après. Et les boîtes françaises elles font le produit avant et elles vendent peut-être un jour, ouais, voilà, pendant deux ans. Elles vendent la RD, elles appellent BPI et puis après, donc ça se passe, quoi. Et en fait, aux US, ils vont demander de l'aide très rapidement. Et. Il faut juste qu'on apprenne en France à demander de l'aide. Et moi, mes meilleurs entrepreneurs, c'est les entrepreneurs qui savent
demander, qui savent poser des questions. Enfin, ouais. C'est un vrai truc, ça. Tu vois, je reviens un peu à notre conversation sur l'école. Je suis désolée, c'est un peu décousu, mais je trouve que c'est intéressant dans la conversation. Moi, tu vois, donc j'ai fait plein d'études et surtout, en fait, je me formais à devenir prof. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc de dingue parce que j'ai fait un an d'échange aux États-Unis où j'ai enseigné là-bas. C'est que là-bas, en fait, on t'incentivait en tant que prof à faire parler les élèves, à les faire débattre, faire en sorte qu'ils te posent des questions. Et d'ailleurs, je devais apprendre à connaître mes élèves avant même de commencer le cours, parce que je devais savoir que tel type, il avait bossé dans telle boîte, etc., parce que j'étais à Columbia University, et du coup, ils avaient déjà bossé. Et en fait, du coup, je pouvais en plus leur poser des questions pertinentes, parce que je savais qui c'était. En France, c'est le contraire. T'as un peu l'impression que t'as le prof qui parle, qui dispense son savoir, tu vois.
Complètement.
Et en gros, t'as des élèves qui sont là et qui sont quand même un petit peu passifs et qui ont peur de poser des questions. Enfin, moi, sincèrement, quand j'étais élève, je me rappelle, j'avais juste peur de poser des questions, de dire une connerie, j'allais me foutre la honte, tu vois, je savais pas. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, bah, du coup, on n'apprend pas trop à poser de questions, quoi. Et du coup, pour revenir sur le sujet de l'école, qu'est-ce que toi, tu... Enfin, donc je sais que tu as des enfants, par exemple. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire du homeschooling ? Qu'est-ce que tu vas faire ?
Ah, c'est dur. Tu peux pas savoir comme c'est dur, ça. Donc, j'ai l'impression qu'avec les enfants, il y a deux patterns chez les gens. C'est soit d'essayer de leur faire exactement reproduire ce que toi, t'as fait dans la vie. Bon, alors moi, j'étais un cancre, donc je vais pas leur faire reproduire ça. C'est pas
si mal réussi, je pense que...
Oui, mais le début, je pense qu'il faut pas faire pareil. C'est pas bon, ça. Ou alors, au contraire, de dire, ah, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à leur place ? Si je pouvais vivre ma vie une seconde fois, qu'est-ce que je ferais ?
Et alors, qu'est-ce que tu ferais ?
Non, mais justement, moi, je veux pas tomber ni dans un schéma, ni dans l'autre. Surtout pas, tu vois. D'accord. Le boulot d'un parent, c'est de, crafter le talent et les appétences et les sensibilités de ses enfants. Et la chose la plus importante et la plus essentielle, c'est qu'ils aient confiance en eux. Un enfant qui a confiance en lui et qui développe de l'empathie et évite d'avoir un ego mal placé ou des susceptibilités mal placées, c'est un enfant qui, de toute manière, trouvera sa voie. Donc, moi, j'ai pas de dogme, je cherche pas, évidemment aussi, j'ai des amis dans une école bilingue, ils parlent français et anglais, ils vont aux États-Unis tous les ans, j'aime les États-Unis parce qu'on leur apprend à pitcher, parce que quand ils arrivent à la maison, ils me disent « ouais, j'ai perdu, j'ai eu troisième », ils me disent « je suis le troisième gagnant ». J'aime bien le mix des cultures, mais à côté de ça, moi, mes enfants, ils feront ce qu'ils veulent de leur vie plus tard, et je veux juste qu'ils apprennent l'empathie, la valeur du travail, et qu'ils aient confiance en eux, et puis après on verra.
Ben écoute, je suis sûre avec un papa comme toi que ça va bien se passer, mais c'est vrai que c'est pas facile quand tu vois l'école telle qu'elle est aujourd'hui. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est vrai qu'on se dit que ils sont pas toujours aidés, quoi. Parce que moi, je vois, c'est un peu une machine de guerre où tu te fais un peu, enfin, tu passes dans le rouleau compresseur et c'est difficile d'avoir son individualité et de sortir du cadre, quoi. Donc
complètement. Mais on n'a pas tous les moyens de mettre nos enfants dans des écoles Montessori à 30 000 balles par an.
C'est un peu le problème, ouais, tout à fait. Il en faudrait d'autres, des moins chers.
Ouais, mais ça marche pas. Il y a pas de modèle.
Ah non, c'est ça. Ah, c'est le VC qui parle.
Exactement.
Bon, et si on saute un peu du coq à l'âne maintenant aux questions qui sont un peu ta marotte, savoir Jean la machine, le deuxième Jean. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la méthode Jean, notamment au niveau donc de ta gestion, par exemple, de tes mails? Je sais que tu en as parlé beaucoup. Enfin, j'ai un peu l'impression que voilà, tu es quelqu'un d'hyper, hyper organisé. D'ailleurs, tu donnes même des confs à ce sujet chez The Family, ce genre de trucs. Est-ce que tu peux me dire, en gros, si tu as déjà de base, peut-être plus que des trucs, des grands principes auxquels tu as réfléchi et qui sont un peu des grands principes de productivité ou d'organisation pour toi?
Principe de base, il ne faut pas subir sa vie, ok?
J'aime bien.
Donc tu vois...
Il y a une phrase que j'aime bien, juste je te l'ai dit, c'est « Either you run the day or the day runs you ».
C'est exactement ça. Donc si tu as décidé de ne pas subir ta vie et de plutôt prendre la maîtrise de ton agenda... il n'y a pas de secret, il faut s'organiser. Et donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que j'ai des grands principes. Après, moi, ce qui s'est passé, c'est que les enfants ont été très structurants pour moi, parce que c'est ça qui m'a levé le matin et couché le soir. Ça m'a quand même donné un
rythme.
Ça
te crée une petite routine, quoi, quand même, j'imagine.
Ouais, carrément. Et une fois que tu as cette routine, c'est comment est-ce que tu t'assures d'arriver chez toi le soir à 19h30 pour leur lire une histoire et les coucher et pas rentrer à 21h. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on est jeune, on arrive en banque d'affaires, etc. On bosse jusqu'à 22h, 23h, minuit en disant « Ah, j'ai bossé beaucoup ». Mais en fait, c'est pas parce que tu as bossé beaucoup que tu as bien bossé. La question, c'est comment est-ce qu'on fait le max du temps qu'on a ensemble. Et quand tu me parlais de la personne que tu as rencontrée chez Station F à qui tu as dit « J'ai une demi-heure », tout d'un coup, le meeting est devenu efficace, mais actionnable, incroyable, tu vois.
Ouais,
t'aurais pu passer une heure, bah, t'aurais perdu une heure, en fait.
Ouais, non,
et
clairement.
Lui aussi. Donc juste, il faut, donc, ouais, le principe de base, c'est que t'as pas le droit de subir ton agenda. Et moi, je déteste subir mon agenda. Et d'ailleurs, alors, j'aime beaucoup bosser, hein, donc, faut
quand même remettre les choses à leur place.
Faut quand même les choses à leur place, hein. La semaine de 4h, c'est pas trop ma cam. Mais, je suis assez bordélique et pas du tout attaché au matériel. Donc,
Mais attends, tu dis que t'es bordélique, je suis désolée, je peux pas laisser passer ça. Tu dis que t'es bordélique, t'as un planning genre hyper organisé. Est-ce que, déjà par exemple, tu peux m'en parler pour que les gens comprennent, mais sincèrement, j'ai l'impression que ta vie est hyper, hyper... Donc tu me dis justement, tu maîtrises ton destin.
C'est un résultat.
Comment tu peux être bordélique et en même temps être aussi organisé?
Oui, mais la machine, c'est la conséquence du bordel. Parce que quand t'es bordélique et que tu veux pas subir ta vie...
Donc tu sais que t'es bordélique, tu as eu l'intelligence de savoir que t'étais bordélique et donc t'as créé un cadre pour faire rentrer... le bordel dans un cadre.
Exactement.
Quoi.
Moi, je suis un bordélique contemplatif. Tu vois, ma cam, c'est de m'installer sur une chaise avec 3 tonnes de papier à droite à gauche et de rien faire. Bon, sauf que ça va pas, parce que si tu fais ça, tu vas pas très loin. Et donc, suite à ça, et en fait, ça s'est vraiment accentué quand je suis entré chez Kima, parce que chez Kima, j'ai eu beaucoup de deal flow, beaucoup d'emails. Et puis, tu as la pression implicite du fait que tu as un mec qui t'a fait confiance pour investir et il faut pas le décevoir. Donc, tu fais ton maximum et en fait, à un moment donné, ton maximum, c'est pas juste bosser 15 heures par jour, c'est trouver le moyen de faire en 5 ce que t'aurais fait normalement en 10.
Ouais.
Et donc, rien.
Par exemple, qu'est-ce que t'as mis en place? Enfin, les premiers trucs que t'as mis en place, c'est quoi?
J'ai cassé les meetings de 1 heure à 40 minutes et quand les gens arrivent, je leur dis on a 40 minutes, mais si on peut tenir en une demi-heure, c'est bien. J'ai dit non. Je dis de plus en plus non et j'ai beaucoup dit non à des gens à qui j'aurais dit oui normalement. Je fais peu de déjeuner extérieur parce que ça prend du temps. Je fais aucun rendez-vous le matin parce que c'est la période pendant laquelle je suis productive.
Une petite question à ce propos. Moi, il y a un truc que j'ai mis en place là récemment parce que je lisais le bouquin de Peter Drucker, tu sais, qui t'explique un petit peu comment organiser ta life justement. Et en gros, un truc que je faisais pas et qui m'a vraiment changé la vie, c'est que j'anticipe la veille au soir ce que je vais faire le lendemain et notamment le lendemain matin, les sujets sur lesquels je vais bosser. Et du coup, j'ai priorisé, tu vois, peut-être 1 ou 2 sujets sur lesquels je bosse pendant 2 heures. Et ça me fait, sincèrement, un appel d'air colossal. Je me pose même pas la question, tu vois, de ce sur quoi je vais bosser. Est-ce que tu as des trucs un peu comme ça le matin ou qu'est-ce que tu fais par exemple le matin pendant ta plage horaire de boulot?
Donc, moi, j'ai divisé mes journées en 3 phase productive, interactive et inductive. La phase productive, c'est la phase pendant laquelle je produis, je suis devant mes emails, je pourrais faire une présentation, c'est moi avec moi-même. Il n'y a pas d'interaction extérieure. Et ce que je fais, c'est que je règle les tâches par intensité. Donc, par exemple, quand je regarde mes emails, là, par exemple, je peux te dire que j'ai 290 emails à traiter. Les 290 emails, ils vont fonctionner de la manière suivante. Je vais les lire. Si je peux traiter l'email en moins de 15 secondes, j'y réponds. Si je peux le traiter en moins de 15 secondes, je le passe. Mm. Et je vais faire une première passe comme ça. D'accord. Et comme ça, je sais que je vais nettoyer déjà 200 emails.
Et tu réponds à strictement tous tes mails?
Ouais, tous. Quasiment sans exception. Ouais. Et donc, je vais répondre aux 200 emails qui sont rapides. Et ensuite, je vais retraiter les 100 emails avec une zone d'intensité où il faut plutôt 30 secondes de réponse. Mmh. Et puis, ceux qui sont encore un peu plus longs, je vais les mettre dans un dossier inbox 0 que je vais traiter dimanche soir. D'accord. Ceux qui sont urgents, je vais les mettre dans un dossier forward que je vais traiter avant demain matin.
D'accord.
Donc, l'objectif, c'est que pour éviter de subir son agenda et être hyper efficace, c'est comme le multitasking. Si t'es pas concentré, t'es pas efficace. Mmh. Donc il faut faire des choses dont l'intensité, dont les intensités sont égales de façon à pouvoir avancer efficacement.
Ouais, et puis varie en fonction de ta bande passante.
Et sur la zone interactive, par exemple, donc moi je fixe des meetings que de 14h à 17h30. Pour les meetings classiques, c'est 40 minutes. Pour les calls, c'est 10 minutes parce que j'ai des tests de téléphone. Mon téléphone, toute la journée d'ailleurs, est en mode nuit. Et à part Xavier et ma femme, il sonne pas. Et le mercredi, je ne fixe aucun meeting pour gérer les urgences ou les meetings de dernière minute. Et JulieDesk, qui est le système que j'utilise pour gérer mes meetings, ne prend aucun meeting à plus de 2 semaines. C'est interdit. Si je peux pas prendre un meeting... Et en fait, c'est ça. Donc, ma contrainte, c'est que tous mes meetings doivent tenir dans une plage horaire de 2 semaines, entre 14h et 17h30, du lundi au vendredi, sauf le mercredi.
Non, mais clairement, enfin, sincèrement, voilà. On a tous été dans le cas de figure où tu planifies un truc un mois et demi à l'avance, et en fait, le jour où ça t'arrive, t'as juste envie de tirer une balle, tu sais même pas ce que tu dois raconter, t'as invité un truc, machin, c'est l'enfer.
Buffett, il disait, si je peux pas vous recevoir le lendemain, c'est que je peux pas vous recevoir.
Ouais, bah, c'est exactement voilà, ça. C'est ce qu'il faut faire, quoi. Bah, écoute, je vois que du coup, il y a quand même un petit peu d'organisation. Est-ce que tu peux me parler, du coup, aussi de ton organisation au niveau des vacances? Parce qu'il y a tout un... Donc tu dis que t'aimes bosser, moi aussi j'aime beaucoup bosser, mais il y a quand même aussi un côté quand t'es entrepreneur ou VC, bah tu fais un marathon. Fais un marathon avec plein de petits sprints où tu es un peu fatigué quand même. Et moi, tu vois, une des erreurs que j'ai pu faire, c'est que pendant les 3 premières années de Gemio, j'ai globalement pas pris de vacances. En plus, il se trouve que moi, je travaille avec mon mari, donc on partait tous les deux pas en vacances. Et je trouve que c'est aussi important de savoir lâcher prise de temps en temps pour prendre du recul, pour vraiment couper et pour ensuite réattaquer. Quelle est un peu ta... Est-ce que tu as une petite philosophie là-dessus ou en fait, juste, tu prends pas de vacances et t'es content de ne pas en prendre? Tu as des enfants en même temps, donc j'imagine. Ouais. Que tu dois un peu passer de temps.
Alors déjà, il y a un truc, c'est que le boulot de VC est beaucoup, 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 beaucoup moins intense que le boulot d'entrepreneur. Et donc, le VC qui dit qu'il est surchargé et que sa vie est un enfer, il ne mérite pas d'être VC. Il faut qu'il fasse autre chose. Il faut qu'il laisse sa place à quelqu'un.
Vous le saurez, messieurs, dames, vous le saurez.
C'est pas sympa, tu vois. Donc non, tu ne peux pas te plaindre quand tu es VC, parce que quand tu es VC, tu es quelqu'un qui fait des choix, tu es quelqu'un qui n'est pas dans l'action et tu ne peux pas te plaindre d'avoir... une vie de choix, quoi. C'est fantastique. La seule erreur que tu peux faire, c'est de faire des mauvais choix, quoi. Ouais. Ça va, il y a pire, quoi. Et donc, ce que je peux dire, c'est que j'ai déconné plein de fois, c'est-à-dire qu'on est parti en vacances, en famille, et en fait, je bossais pas à des horaires fixes, donc je bossais un peu le soir, un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu ceci, je prenais un call qui, au lieu de durer un quart d'heure, durait une demi-heure, une heure. Et en fait, j'étais pas organisé. Et maintenant, ce que je fais quand je pars en vacances, c'est que je fixe des plages horaires pour cleaner mon inbox, genre 2 heures par jour. Là, on était au ski avec les enfants. Bon, moi, je pouvais pas skier, je me suis cassé le pied il y a 4 mois, mais je faisais mes emails de 10 heures du matin à midi.
Ouais, après, t'es tranquille, quoi.
Et après, je suis tranquille.
Relativement.
Et là, je pars aux US tous les ans un mois entre avril et mai. Et c'est une période pendant laquelle je me ressource énormément. Je regarde ce qui se passe, je prends un peu de recul, je fais moins de deals. En plus, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à écrire.
Ah, c'est cool. Ouais. Tu vas pouvoir m'en parler de ça.
Ouais. Et donc, ouais, puis moi, comme je suis un contemplatif de base, tu vois, je fais du vélo pour aller au bureau, je fais du vélo pour revenir, je mets de la musique dans les oreilles. Moi, ma vie, elle est cool, tu vois. J'ai pas, ma soupape, c'est tous les jours. Ça va, hein, j'ai pas à me plaindre.
Non, mais c'est pas ça, tu vois. Mais c'est juste que je pense que j'ai été un peu... Il y a plein d'entrepreneurs comme ça et j'imagine plein de personnes dans le monde corporate. Ils arrivent globalement quand même à s'organiser pendant les moments où ils bossent. Et en fait, dès qu'ils partent en vacances, bah, en fait, ils se font complètement happés, tu vois, par les mails. Ils regardent compulsivement leurs mails alors qu'ils sont en vacances. Ils répondent au téléphone. Et en fait, je pense que là aussi, tu vois, il faut se dire qu'il faut un minimum d'organisation parce que sinon...
Ou quelqu'un à côté de toi qui dit qu'il faut que tu arrêtes de faire ton téléphone.
Ouais.
Ça marche pas mal, ça.
Tu vois, c'est clair. Ta femme, peut-être.
Par exemple.
On va la remercier.
Ouais.
Ça marche. Tu m'as parlé un peu de vélo. Ça m'intéresse de savoir aussi, tu me dis si c'est trop perso, mais moi, je suis assez partisane du un corps sain dans un esprit sain, ou je sais pas, je crois qu'on dit un esprit sain dans un corps sain.
Les deux
voilà. Et est-ce que ça a un truc important pour toi ou pas particulièrement?
Ça l'a jamais été. J'ai jamais fait de sport. J'ai toujours détesté ça. J'ai essayé le basket, j'étais nul. J'ai essayé le handball, j'étais nul. J'ai essayé le volleyball, j'étais nul. J'ai essayé le foot, j'étais nul. J'ai essayé le karaté, j'étais nul. J'ai essayé les échecs, c'est pas un
t'as
sport.
J'étais
aussi. Bref, ça marchait pas. mais à l'école quand même ça allait, je courais vite hein. J'ai toujours été bon marathonien, mais je déteste courir parce que ça me met le cerveau en ébullition, je passe à plein de trucs et j'ai qu'une envie, c'est d'aller retourner bosser. Et donc un jour j'ai fait exactement la même chose que pour mon organisation. Je me suis dit bon, quand t'as trois enfants et que tu fais une couvade, tu vois, tu commences par un peu culpabiliser, et je me suis dit putain, faut que je fasse quelque chose. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai lâché mon scooter pour prendre un vélo.
C'est pas mal. Hein.
Je me suis dit, bon, quitte à pas faire de sport, je vais au moins faire une heure de cardio par jour en faisant du vélo. Donc, j'ai pris le vélo. Après, j'ai commencé un peu de sport avec un coach. J'ai pas réussi à accrocher. J'ai pas trouvé mon plaisir.
T'as pas trouvé
plaisir.
Ton truc, quoi.
Donc, ce que je te disais, c'est que j'ai rencontré ce mec qui s'appelle Jean Daniel il y a quelques mois. Et donc, c'est un coach que j'ai vu pendant deux jours. C'était assez sympa. Un coach de CEO. Et on parlait de plusieurs dimensions de la vie de chacun, qui sont les dimensions intellectuelles, dimensions physiques, dimensions tout ce qui est relations, amitié, etc. Dimensions spirituelles, dimensions artistiques et dimensions sociétales. Et sur la dimension physique, il me dit « Bon, Jean, qu'est-ce que tu fais comme sport ?» quoi. Et malheureusement, j'avais la même réponse qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'en faisais pas. Et il me dit « Mais il y a bien quelque chose qui te plaît quand tu fais du sport, qu'est-ce que tu as fait ?» Et donc je lui dis « Ah ouais, moi j'ai bien aimé la boxe. J'ai bien aimé, quand on fait des exercices avec le coach, j'aime bien les exercices précis, intensifs. Mais par exemple, j'aime pas le cardio, j'aime pas courir comme un dératé, ça me plaît pas. » Et donc, et au même moment, je me suis cassé le pied quelques semaines avant, au squash. Et en fait, le squash, j'ai adoré ça.
Ouais, c'est hyper marrant. Par contre, c'est tellement creux. Et puis surtout, tu casses tout, quoi. Tu fais les ligaments croisés.
Que je trouvais génial, tu vois, c'était le squash.
C'est juste le sport le plus mauvais pour la santé, quand même.
Ouais, j'ai su ça après. Et puis, d'après le Gorafi, c'est un sport de connard. Mais donc, je m'étais cassé le pied et je pouvais plus faire de vélo, je pouvais rien faire, etc. Et donc, je me suis mis au yoga et j'ai adoré, quoi.
Ah, mais alors attends, c'est drôle parce que tu sais que tu ne sais pas, mais j'ai fait 15 ans de yoga. Je suis une addict de yoga et j'ai dû arrêter le yoga.
Pourquoi?
Parce que je me suis blessée fortement aux épaules parce que, bon, bref, j'en faisais un peu trop. Tu fais quoi comme
yoga? Oh merde!
Non, mais attends, je poussais le truc un peu loin. Je pense que t'as un peu de marge.
Non, mais moi, j'ai plein de boulot. Il faut que je bosse ma souplesse et tout. Mais je fais plein de. Il y a une app que j'aime bien qui s'appelle Asana Rebel.
Ouais.
J'utilise.
Hyper bien.
Qui est top.
Hyper bien.
Et ben, j'utilise ça et je fais ça entre 20 minutes et une demi-heure tous les matins. À 6h30. C'est à 6h30, 7h en fonction du jour.
Cool.
Et j'aime beaucoup ça. Donc, je fais ça. Je fais du vélo.
C'est déjà pas mal,
je fais attention, mais j'ai mis du temps, tu vois, à prendre soin de moi, quoi. Ça a mis beaucoup de temps.
À te rendre compte que c'était un peu important quand même.
Ouais. Et comme toujours, les choses importantes, tu t'en rends compte qu'à posteriori.
Bien sûr. Et au niveau alimentation, tu as un peu des trucs particuliers ou pas du tout?
T'évites le sucre, les pâtes, le riz après 17h.
D'accord. Voilà.
Déjeuner.
Parce que c'est ça, tu vois, dès que tu bosses un peu aussi, que tu as des déjeuners. Alors toi, t'en as que deux par semaine, a priori, mais quand même, c'est assez rapide. Enfin, tu peux t'empâter un peu rapidement et puis rentrer, tu vois, dans un rythme où tu bois du vin, machin. Je trouve que c'est pas mal aussi de se mettre des règles. Et comme tu es une machine, j'imagine que tu as aussi des règles au niveau alimentaire.
Je fais assez attention, mais je suis pas encore très discipliné là-dessus. Et en revanche, quand je décide de faire un écart, je me fixe 24 heures.
D'accord.
Tu vois, donc par exemple, si tu me dis, si je dois faire deux soirées dans la semaine, j'essaie de faire deux soirées de suite.
D'accord. Tu as des jours off, un peu de.
J'essaie de faire gaffe, ouais, globalement. Et de fixer des moments de déconnade qui ne soient pas trop importants, parce que le problème des bonnes habitudes, c'est qu'une fois que tu les perds, c'est difficile de les récupérer.
C'est très, très difficile de revenir. En général, la pente, elle est assez glissante, quoi. Ça marche. Pour terminer, parce qu'on a déjà pas mal avancé, j'ai des petites questions. On a fait une petite cinquantaine de minutes.
Oh, merde.
On va commencer à boucler. Tu m'as parlé de plein de bouquins. Est-ce que tu peux. Donc, j'ai vu que tu n'étais pas fan de la semaine de 4 heures, tu me l'as dit.
Non, j'aime pas les régimes minceurs parce que c'est des trucs que 99% des gens qui les lisent ne les appliquent pas. C'est de l'arnaque, c'est dégueulasse d'arnaquer les gens. Il faudrait les rembourser au moins.
Non, mais et puis en plus, le problème du régime, c'est que dès que tu l'arrêtes, on le dit toujours, mais c'est vrai, malheureusement, c'est pas un régime, c'est juste un changement d'alimentation.
Complètement.
Mais indépendamment de ça, est-ce que tu as des bouquins que tu recommandes à nos auditeurs? Pas forcément d'ailleurs des bouquins de productivité, tu vois, juste des bouquins même de littérature, si ça te plaît, de je sais pas.
Je te fais une confidence.
Tu ne lis pas?
Je ne lisais pas.
T'as
commencé il y a 3 mois.
Alors des films?
Non, j'ai commencé il y a 3 mois à lire.
Bah voilà.
Et j'en avale un par semaine en ce moment, j'adore. Et en fait, je lisais pas. Bon, d'abord, moi, je lisais les fiches de lecture quand on était, enfin, les résumés quand j'étais à l'école. Après, à l'université, je lisais pas les bouquins non plus. Et en tant que leveur de fond ou même chez The Family, les deux bouquins que j'ai dû lire, c'était Who's the Method for Hiring et The Five Dysfunctions of a Team. Et puis voilà, quoi. Et il y a trois mois, quand j'ai rencontré ce mec-là, Jean-Daniel, ce coach de CEO, c'était à la fin des deux jours qu'on a passé ensemble, il m'a dit « Tiens, Jean, tu devrais lire un bouquin, ça s'appelle Le problème Spinoza. Et je pense que tu vas aimer, et quand on se revoit dans deux, trois mois et qu'on en discute, tu me diras si t'as aimé ou pas. Je pense que ça va te plaire. » Et en fait, le fait qu'il ait fait ça, je ne l'ai pas lu parce que j'avais envie de le lire, c'était un bouquin de 550 pages, ça m'a déprimé rien que voir le nombre de lignes et de pages. Mais
puis il y a le mot Spinoza quand même dans le titre.
Ouais. Complètement. Heureusement, je savais qu'il était Spinoza quand même. Et en fait, c'était un challenge pour moi. Je voulais pas le décevoir, ce mec-là. Il m'avait conseillé de lire un bouquin. Je veux pas me retrouver comme un con dans deux mois à lui dire « Ah, désolé, ton bouquin, je l'ai pas lu. »
C'est pas mal. La pression des pairs, très important.
Exactement. Tu vois, cette pression-là. Et donc, j'ai lu ce bouquin-là. Je l'ai terminé. Et puis, dans le bouquin, il parlait d'un autre bouquin qui s'appelle « Man's Search for Meaning », un mec qui s'appelle Frankel. Qui une histoire assez dure parce que lui a vécu à Auschwitz et s'en est sorti et donc il y a deux tiers de bouquins sur sa vie et un tiers sur après ses méthodes psychologiques. Et donc j'ai ensuite enchaîné ce bouquin là puis après un autre et encore un autre et là je sais pas j'ai dû en lire
10
ouais et j'en
donc
lis un par semaine
maintenant c'est yoga et bouquin
tu vois comme quoi même après presque 35
l'image
ans
l'image d'Épinal du Vici on prend un coup là
ouais, waouh incroyable et avant moi quand j'étais content vers 17h30 c'est la période où je commençais à être un peu inefficace au boulot il m'arrivait de me poser une demi-heure et de rien faire quoi maintenant je me pose une demi-heure mais je lis tu vois Et les bons bouquins que j'ai lu récemment, il y a First Break All the Rules pour tous les managers, qui est juste essentiel et qui est basé en plus, qui est très, très data-driven. Ils ont interviewé plus de 100 000 managers, 10 millions d'employés. Et ils montrent tout ce que font les bons managers versus tout ce qu'on a essayé de vous apprendre et qui est faux en réalité. C'était intéressant.
Je le mettrai dans les notes.
Là, je termine un bouquin d'un mec qui s'appelle Ray Diallo, qui est le founder et CEO de Bridgewater.
Clairement. Principles.
Ouais.
Non, mais exceptionnel. Exceptionnel. Ah, là, je recommande à tout le monde. Quoi,
lui, c'est une star. Alors après, c'est un peu radical. Hein. Faut adhérer.
Mais bon.
Hein. C'est l'américaine. Le mec est patron d'un hedge fund. T'es pas Mickey quand t'es patron d'un hedge fund, quoi. Et ça se voit clairement dans le bouquin. Mais bon, mec, à 70 ans, tu vois qu'il a vécu et qu'il a appris quelques trucs, quoi. Hyper intéressant. Après, un bouquin qui, malheureusement, est très, très, très chiant à lire, mais qui est très, qui est important parce qu'on a on a une problématique dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, c'est un. Et après, tu couperas ce que tu veux au montage, parce que j'ai passé un peu de temps dessus, mais pas longtemps.
T'inquiète pas.
Mais il y a un truc qui est hyper important dans l'entrepreneuriat, dans le VC et dans la relation entre l'entrepreneur et les VC, c'est l'intelligibilité. La difficulté qu'on a et dans nos relations au quotidien, c'est la communication. C'est la capacité de comprendre les gens qu'on a en face de nous, d'exprimer des choses intelligibles qui vont comprendre telles que nous, on les perçoit, ou telles qu'il faut qu'elles soient perçues. Et ça demande des efforts, quoi. Et ça demande encore plus d'efforts quand les gens sont dans des organisations où il y a beaucoup de monde, parce que tu fais attention à ce que tu dis aux gens.
Oui, bien sûr.
Et tu as besoin d'avoir l'adhérence des gens à qui tu parles. Et donc, il y a ce bouquin qui s'appelle The Pyramid Principle, d'une nana qui s'appelle Barbara Pinto,
ouais,
je crois.
Oui, ça dit quelque chose aussi.
Et c'est surtout la logique de pensée et d'écriture. Et je ne pense pas que ça vaille le coup de lire les 250 pages du bouquin, parce qu'en fait, tout se résume en une phrase. C'est que le meilleur moyen d'aborder un sujet avec quelqu'un pour que la personne comprenne, adhère et se mette en position d'avancer sur le sujet, c'est d'abord de donner une vérité générale qui est incontestable, d'adresser le problème de cette vérité générale et ensuite la question que ça pose. Donc par exemple, si tu te rends compte que tes sales ne décollent pas, que ça ne marche pas, tu vas dire « nos sales ne décollent pas
okay. ».
Bon, ça c'est un fait, tu vois, c'est marqué, il y a des chiffres et tout. La problématique c'est... nos sales ont des problèmes de performance. Ok, bah ça, comme tu as dit, si tu es allé voir la personne et tu as dit « nos sales ont un problème de performance », première réaction c'est « non, il n'y a pas de problème
». Ah, c'est clair.
Alors que si tu as dit « t'as vu, nos sales ne performent pas », on te dit oui. Ensuite, une fois que tu dis « les sales, tu vois, ne marchent pas », on peut pas aller à l'encontre de ça. Et ensuite, la question que ça pose, c'est donc, comment on fait pour améliorer ça Et ben c'est tout bête. Et ensuite, la suite de ça, c'est est-ce qu'on applique une logique déductive ou inductive ? La logique déductive étant d'adresser, que chaque idée adressée est la suite logique de l'idée précédente, ou une logique inductive qui est un peu plus difficile à matérialiser pour les gens, mais qui est des idées parallèles qui sont liées au même sujet. Voilà. Et donc, ce bouquin était quand même hyper intéressant sur la manière dont il est construit, même s'il est chiant à mourir à lire. Un bouquin que j'ai pas aimé du tout, c'est Mindset.
Mindset ?
Ouais, avec Gross Mindset, Fixed Mindset, espèce de best-seller que j'ai trouvé insupportable. Alors,
j'oublie tout ce que c'est, mais je le mettrai quand même dedans.
Je vous le dis, si on... Enfin bref,
le lisez pas, quoi.
Mais bof. Et si, The Little Book of Ikigai était sympa, j'ai lu ça là au ski. C'est incroyable à quel point les Japonais ont réussi à incorporer dans leur culture des principes de vie fondamentaux, quoi. Et ça, c'était assez cool, ça.
Japon, belle destination, je sais pas, tu connais un petit peu ?
Non, moi, je lis pas, je voyage pas, je fais pas de sport.
Très bien.
Je fous là.
C'est ça. Et tu m'as sorti 10 bouquins, tu fais du vélo, du yoga.
Ouais, mais
parfait, parfait. Ça marche. Écoute, Jean, je vais peut-être te libérer, mais avant ça, en fait, j'aimerais qu'on parle de ton livre, du coup, puisque c'est une très belle transition. On a parlé d'autres livres que tu aimes lire, et maintenant, j'aimerais parler de ton livre. Qu'est-ce que c'est que cette petite cachotterie ?
La petite cachotterie, c'est que j'ai fait quelques conférences sur le sujet que moi j'appelle Human Machine, qui est le paradoxe que l'humain est quelque chose de difficile à maîtriser et que, donc ce paradoxe entre l'humain et la machine, quoi. Et comme tu sais que je suis bordélique, donc j'arrive à ces conférences-là et j'ai pas beaucoup préparé la présentation et c'est souvent un peu bordélique, c'est souvent un peu décousu. Et donc même si je fais passer des messages que certains comprennent, globalement, je pense que c'est pas assez actionnable. Et moi, je passe mon temps à critiquer des bouquins comme La Semaine de 4 heures ou Miracle Morning, qui sont
des
recettes magiques, de vastes mirages. Et les gens pensent que juste en lisant ces bouquins, ça va changer leur vie. En fait, pas du tout. Et moi, quand j'avais 13 ans, je fumais pas mal de cigarettes. Je fumais un paquet par jour. Et ma mère fumait aussi, donc elle m'achetait des paquets. Puis j'ai arrêté à l'âge de 23 ans avec un bouquin qui s'appelle The Easy Way to Stop Smoking de Alan Carr.
Ah oui, j'en ai entendu parler. J'ai plein de copines qui... Mais apparemment, c'est incroyable comme livre. Je sais pas, moi, j'ai des copines qui m'ont dit... Je fume pas, mais j'ai des personnes qui m'ont dit que c'était incroyable.
C'est le bouquin qui te permet de t'auto-conditionner à arrêter.
Ouais, c'est ça. C'est un peu de l'auto-hypnose ou un truc dans le genre, quoi.
Je veux faire la même chose sur la productivité.
Trop bien.
Je veux faire le bouquin qui va marcher pour les trois quarts des gens. Je veux pas le bouquin que 0,01% des gens qui le lisent arrivent à l'appliquer.
Ouais, ou juste que les gens rêvent. Enfin, tu vois, La Semaine de 4 heures, c'est un peu ça. C'est tu rêves d'être Tim Ferriss parce qu'en gros, il fout rien et qu'il gagne très très bien sa vie. Mais bon, malheureusement,
c'est n'importe
la
quoi.
Vie n'est pas comme ça.
Tu vois, il faut qu'un mec qui est serveur chez Chipotle arrive à s'y retrouver, quoi. Parce qu'il y a pas. Il n'y a pas de mauvais métier et la fortune, c'est pas l'argent.
Top. Bah, j'ai hâte de voir ça. Tu sais quand ça sort ?
Je pense que j'ai écrit un bon tiers quand je me suis cassé le pied.
Ouais.
Et là, pendant que je serai aux US en avril-mai, je vais essayer de dérouler un maximum.
Cool. Hein.
Mais le temps est mon ami et je ne suis pas pressé. Je veux juste que... C'est une grosse responsabilité et c'est une pression que j'ai, mais je veux que ce soit exceptionnel. Tu vois, moi, je suis de la même manière que je suis bordélique et pas toujours consistant, même si j'ai fixé des règles pour régler ça, je veux que ce travail-là soit impeccable.
J'ai hâte de lire le tien parce que je trouve ça très très cool.
Ouais, je fonctionne à la pression. Donc je me la mets et je la mets aux autres. C'est comme quand je dis publiquement que les moitiés des VC sont nuls. C'est pour me mettre la
ça,
pression. C'est important. Ça change pas parce que les gens visés, eux, ont pas compris, mais...
C'est sa personne se sent concernée, quoi.
Ouais, jamais.
C'est toujours l'autre.
Non, par contre, non, mais juste, je reviens et ça va faire grincer des dents les autres, mais Alven fait du bon travail.
Mais on les aime beaucoup chez Gémio, en tout cas.
Voilà.
Jean, merci mille fois. Juste avant de te quitter, où est-ce qu'on peut te trouver sur le monde merveilleux du web, de l'internet, sur Twitter, sur Instagram, si on veut te poser des questions sur ton futur bouquin, faire des cours de yoga avec toi,
ouais.
Tout ça.
J'ai un handle qui est le chiffre 2 et LR. À peu près partout. Et après, le truc sur lequel je suis le plus efficace, c'est les emails. Donc, jean@kimaventures.com.
Bon, bah écoute, on le saura. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps.
Merci.
Et puis, j'ai une longue liste de livres à lire maintenant. Donc,
cool.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt. Ouais.
Avant de vous quitter, quelques points en plus. D'abord, si vous souhaitez contacter Jean, c'est simple, allez directement sur le site du podcast. Donc, c'est www.podcast-du6-crème-de-la-crème.com, rubrique podcast. Vous trouverez ça également dans les notes de l'épisode sur iTunes. Vous verrez, je vous ai fait un petit résumé de l'épisode avec les grands points à retenir. Le contact de Jean, donc, il laisse son mail notamment. Très sympa de sa part, sachant qu'il en reçoit beaucoup. Les notes sur l'épisode aussi, et notamment tous les bouquins qu'il recommande. J'ai pris un peu le temps de les lister, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à tout ça. Aussi, si vous voulez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, n'hésitez pas à le faire directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo @pelignau, donc c'est P-L-A-I-G-N-E-A-U, ou bien sûr, vous pouvez me laisser des commentaires sur le blog podcast Crème de la Crème. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que la conversation vous a plu. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.